Récit de la vie de Mohammed. Après cet aperçu du contexte religieux et historique à l'époque de Mohammed, voici une petite synthèse de ce que dit l'islam sur la vie de Mohammed. L'intention de l'auteur n'est pas d'essayer de reconstruire un Mohammed historique, mais de vous aider plutôt à voir le prophète Mohammed comme les musulmans le voient, afin de mieux comprendre en quoi il est si important pour eux. Mohammed faisait partie de la tribu dominante de la Mecque, la tribu des Quraïchites. Les Quraïchites se reconnaissaient un ancêtre commun plusieurs générations en arrière qui était Fir, le fondateur du clan. Avant Fir, la généalogie remontait jusqu'à Ismaïl, le fils d'Abraham, et plus loin encore à Adam, le premier homme. Un certain nombre de générations après Fir, les Quraïchites vinrent s'installer à la Mecque. Le clan de Mohammed a été baptisé du nom de son arrière-grand-père, Hashim. Le clan Hashim, Hashémite, était l'un des clans les moins importants de la Mecque, mais son chef était le gardien de la Kaaba. Ce clan avait un prestige considérable. Mohammed est né approximativement en l'an 570, l'année de l'éléphant. Voir la sourate 105. La tradition rapporte que peu avant sa naissance, une armée menée par Abraha, le gouverneur abyssin, on dirait aujourd'hui éthiopien, du Yémen, était sur le point de conquérir la Mecque. L'Abyssinie régnait à ce moment-là sur le Yémen. En s'approchant de la ville, l'éléphant, placé en tête de l'armée, aurait refusé d'avancer et se serait prosterné en direction de la ville en signe de révérence. Les musulmans croient que Dieu a délivré la Mecque à cause de la naissance prochaine de Mohammed en ce lieu. Son père, qui s'appelait Abdallah, mourut au cours d'un voyage caravanier avant sa naissance. Mohammed a donc été élevé par sa mère, Amina, et par son grand-père, Abdalmutalib, le chef du clan. Comme c'était l'usage chez les Arabes citadins de la Mecque, Amina mit l'enfant en nourrice en bas âge chez une femme de Bédouins appelée Halima. Les gens de la Mecque considéraient que les Bédouins avaient su préserver les valeurs authentiquement arabes et qu'un enfant ne pouvait que retirer un bénéfice de ce contact précoce avec ceux qui vivaient selon ces valeurs. Un jour, deux hommes vinrent se pencher sur le petit Mohammed, lui ouvrir la poitrine et en sortir le cœur pour en retirer la tache noire qui s'y trouvait. La tradition identifie ces deux hommes comme étant les archanges Djibril, Gabriel, et Michaël, Michel. Cet événement est considéré comme un miracle. La tache noire représente la tendance humaine au péché. En enlevant cette tache, Mohammed a été protégé contre le péché, ce qui va dans le sens de la croyance qui s'est développée plus tard et qui dit que, bien qu'étant un être humain, Mohammed n'a pas commis de péché. Après ce miracle, Halima a ramené Mohammed à sa mère, Amina, qui mourut quand il avait 6 ans. 2 ans plus tard, ce fut au tour de son grand-père de décéder. Il laissa Mohammed aux soins de son oncle, Abu Talib, qui avait succédé au grand-père comme chef de clan et tuteur de Mohammed. Le fait de devenir orphelin si jeune, ayant perdu à la fois son père, sa mère et son grand-père, trouve un écho dans les révélations coraniques des premiers temps qui expriment une grande sollicitude pour le pauvre et le faible, comme dans la sourate 93:6-10. Texte sacré. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Un jour, alors qu'il accompagnait son oncle en voyage, la caravane s'arrêta à Bassora. Il s'agit d'une petite ville de Syrie et non de celle d'Irak. Bahira, un moine chrétien de l'endroit, vit une lumière au-dessus de la caravane et prit cela comme le signe que le prophète attendu se trouvait parmi les voyageurs. Quand on vint lui présenter le jeune Mohammed, Bahira examina Mohammed pour voir s'il portait le signe de la prophétie entre les épaules et l'identifia comme étant le prophète promis dans les textes sacrés que possédait Bahira. Pour les musulmans, cet incident montre que Mohammed incarne la réalisation des espérances chrétiennes, identifiée en tant que telle par un moine chrétien. Le texte n'indique pas avec précision quel était ce signe. Peut-être un grain de beauté ou une tache de naissance spéciale. Puisque son père était mort avant sa naissance, Mohammed ne reçut aucun héritage. Khadija, une riche veuve d'environ 15 ans de plus que lui, l'engagea comme contremaître pour superviser ses entreprises commerciales. Le jeune homme l'impressionna et elle lui proposa le mariage en l'an 595. Khadija demeura jusqu'à sa mort la seule épouse de Mohammed. Elle donna à Mohammed 4 filles et un ou plusieurs fils. De leurs enfants, seule Fatima survécut à ses deux parents.
Le portrait de Mohammed. En Occident, grâce aux œuvres d'art, celles des maîtres et celles de la piété populaire, les chrétiens et les juifs ont un réservoir d'images mentales qui leur permet d'imaginer les traits en particulier de Moïse et de Jésus. Il en va de même pour les bouddhistes et les confucianistes. Cependant, il n'y a pratiquement aucune source ancienne qui fournisse des informations sur lesquelles s'appuyer pour ces représentations. En revanche, excepté quelques représentations de Mohammed dans les miniatures persanes, où le visage de Mohammed est laissé en blanc, les artistes musulmans ne peignent pas de tableaux figuratifs et ne font pas de statues de Mohammed. Cela date de l'interdiction de fabriquer des images représentant ce qui vit que l'on trouve dans la Bible, Deutéronome 4, 16, 19. Une interdiction qui a été reprise à la lettre dans l'islam et appliquée à la représentation de Dieu et de son prophète, Mohammed. Le manque de représentation imagée est compensé par des descriptions textuelles détaillées de l'aspect de Mohammed. La description qui suit est fondée sur plusieurs hadiths parlant de Mohammed et rassemblés par Al-Tirmidhi, 824-892, dans son Shama'il. Mohammed était légèrement plus grand qu'une personne de taille moyenne. Ses épaules étaient larges et ses cheveux épais recouvraient ses oreilles. Il était grand, bien charpenté et avait une grosse tête. Son visage était ovale et son teint n'était ni clair ni foncé. Son visage était plus rayonnant que la pleine lune. Il avait de longs cils et entre les deux yeux, une veine qui gonflait quand il était fâché. Il avait les yeux noirs et une barbe abondante. Ses dents étaient éclatantes de blancheur. Le sceau de la prophétie, identifié par le moine Bahira, était entre ses épaules. Mohammed marchait légèrement courbé en avant. Contrairement aux nombreux films qui existent sur Jésus, il n'en existe qu'un seul sur le prophète Mohammed, réalisé en 1976, Le Message, film de Mustapha Akkad avec Anthony Quinn. Comment peut-on faire un film sur quelqu'un sans le représenter à l'écran ? Dans certaines scènes, Mohammed est tout simplement en dehors du champ de la caméra. Dans d'autres, il est invisible derrière l'objectif de la caméra. Par ailleurs, on peut suggérer beaucoup de choses sur une personne en s'intéressant au personnage clé de sa vie.
Pour un musulman, la fonction d'un prophète aussi important que Mohammed est double. Il doit délivrer la parole de Dieu, le Coran, aux croyants et leur rappeler qu'il est important de revenir au service exclusif de Dieu et de pratiquer la justice. Les avertissant du châtiment qui les attend à l'heure du jugement dernier s'ils ne se convertissent pas. Selon la tradition, Mohammed, ne se satisfaisant pas du polythéisme ambiant, prenait périodiquement des moments de retraite dans une grotte située en dehors de la Mecque, au mont Hira, aujourd'hui appelé le mont de la lumière. C'est là, en l'année 610, qu'à l'âge de 40 ans environ, un des jours impairs parmi les 10 derniers jours du mois de Ramadan, la nuit de la puissance, Laylat al-Qadr, que l'ange Gabriel lui apparut pour lui révéler qu'il était le messager de Dieu, c'est-à-dire celui qui transmettrait le livre de Dieu à son peuple. Gabriel a demandé à Mohammed de réciter ce livre. Au commencement, Mohammed a répondu « Je ne sais pas faire » ou « Que dois-je réciter ?» essayant de se soustraire à la tâche que Dieu voulait lui confier. La sourate 53, 5-18 dit que Gabriel emplit tout l'horizon, de sorte que, quelle que soit la direction vers laquelle Mohammed se tournait, il le retrouvait face à lui et finit par céder à ses injonctions. Après cette expérience, Mohammed prit peur. Était-il fou ou inspiré par un djinn, voir le chapitre 5, comme le sont les poètes et les devins? C'est ce que certains ont pensé quand il finit par rendre public son message. Mohammed affirma qu'il n'était ni poète ni devin. Il alla trouver son épouse, Khadija, qui le réconforta et lui proposa qu'ils aillent tous les deux trouver son cousin, Waraka ibn Nawfal, qui s'était converti au christianisme. Waraka confirma que, d'après les Écritures, Mohammed était bien le prophète attendu, qui viendrait apporter la parole de Dieu aux Arabes, qui n'avaient encore jamais reçu d'écriture qui leur soit propre. Texte sacré. Quels sont les versets du Coran, les premiers, que Mohammed reçut à ce moment-là? La plupart des musulmans croient qu'il s'agit des premiers versets de la sourate 93 qui déclare, verset 1-5, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a créé par la plume le calam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Mohammed s'inquiéta que deux ou trois années passent sans qu'il ait d'autres révélations. Dans la sourate 93, 3-4, Dieu rassure Mohammed en lui disant « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, ta vie dernière est certes meilleure que ta vie présente. » Pendant tout le restant de sa vie, Mohammed continua à recevoir les révélations qui, une fois rassemblées, constituent le Coran. La tradition musulmane souligne que Mohammed était illettré et, en conséquence, qu'il n'a pas pu composer lui-même le Coran. Au commencement, Mohammed limita sa mission à son cercle immédiat. Après que Khadija eut accepté l'idée que Dieu avait nommé Mohammed son prophète, son esclave Zaïd, son cousin Ali, le fils de son oncle et tuteur Abu Talib, et un certain nombre d'autres cousins se déclarèrent musulmans et reconnurent Mohammed comme étant l'envoyé de Dieu. Pendant deux ou trois ans, le petit groupe des premiers convertis a tranquillement pratiqué sa foi musulmane, notamment en récitant quotidiennement les prières du matin. Dieu demanda alors à Mohammed de proclamer publiquement le message de l'islam. Abu Bakr, qui allait devenir le successeur de Mohammed en tant que calife, avait été le premier converti issu d'un rang important au sein du clan hachémite. Les autres convertis étaient des jeunes gens et quelques adultes issus de clans moins influents. La majeure partie des habitants de la Mecque n'acceptèrent pas le message de Mohammed. Ne croyant pas en la vie après la mort, ils n'avaient aucune raison de craindre la menace de la malédiction éternelle annoncée par Mohammed. Mohammed disait que, de même que la création porte la marque de Dieu, de même au jour du jugement dernier, la création devra lui rendre des comptes. Au fur et à mesure que les conversions se faisaient plus nombreuses, Mohammed était de plus en plus en butte à l'hostilité des anciens. Dans une société où la famille et le clan étaient primordiaux, la mission de Mohammed venait semer la discorde au sein des familles. Mohammed mettait l'accent sur la nécessité de n'adorer qu'un seul Dieu. Dans la sourate 112, reportez-vous au passage sur l'épisode des versets sataniques au chapitre 5. Si Mohammed était protégé par son oncle Abu Talib, les autres convertis ne bénéficiaient pas tous d'une protection et leur adhésion à l'islam les mettait en danger. Vers 615, Mohammed envoya environ 80 hommes musulmans et leurs familles en Éthiopie, où le roi chrétien leur accorda l'asile. Écoutez le chapitre 6. Peu de temps après, son oncle Hamza, l'un des plus farouches opposants à Mohammed, et Omar, le futur deuxième calife, écoutez le chapitre 4, se convertirent. Préoccupée par ces conversions, la confédération coréchite imposa par la force un boycott du clan hachimite vers 616-618. En 619, la situation de Mohammed prit un tour décisif pour le pire, avec la mort de son épouse Khadija et de son oncle et protecteur Abu Talib. Abu Lahab, un autre oncle, qui allait devenir le nouveau chef du clan, était farouchement opposé à Mohammed. Voir la sourate 111. Pour aller plus loin, le voyage nocturne de Mohammed vers Jérusalem, Isra, et son ascension au ciel, Miraj, eurent lieu aux environs de 620. Écoutez les chapitres 9 et 14. La sourate 17.1 fait peut-être allusion à cet événement. L'ange Gabriel vint au beau milieu de la nuit et mit Mohammed sur un âne ailé appelé Bourak, qui l'emmena à Jérusalem. Attachant Bourak au mur du temple sur la montagne de David, Mohammed s'est alors élevé jusqu'aux cieux, à partir de l'endroit même où Abraham avait failli sacrifier son fils et où les Juifs avaient bâti un temple qui fut détruit. Après avoir montré les supplices de l'enfer, Gabriel fit passer Mohammed par chacun des sept ciels qui étaient gardés par des anges. Dans chaque ciel, Mohammed rencontra les différents prophètes, tels qu'Adam, Moïse et Jésus. Pour terminer, Mohammed arriva tout seul jusque sur le trône de Dieu, là où Gabriel ne pouvait pas aller, et se retrouva seul en présence de Dieu. À son retour sur terre, Bourak le ramena jusque dans son lit à la Mecque, la même nuit. En 620, Mohammed rencontra six hommes qui venaient de Yathrib, la future Médine, et allaient en pèlerinage à la Mecque. Un conflit entre les deux tribus arabes de la ville avait mis en péril la prospérité de cette oasis qui vivait de l'agriculture. Ils venaient chercher un arbitre pour rétablir la paix dans la communauté et avaient entendu parler de la loyauté de Mohammed. De fait, la réputation d'honnêteté de Mohammed lui avait valu le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance. Par les clans juifs de Yathrib, ils avaient également entendu parler d'un prophète qui allait venir et pensaient que peut-être Mohammed était ce prophète. Deux ans plus tard, en 622, un autre groupe d'hommes et de femmes de Yathrib rencontra secrètement Mohammed en dehors de la Mecque et signa avec lui un pacte de garantie, reconnaissant Mohammed comme arbitre de la ville et l'assurant de sa bienveillance à l'égard de ses disciples. Mohammed incita, sans les obliger, les musulmans à immigrer à Médine, et certains musulmans préférèrent rester à la Mecque. Les disciples de Mohammed, qui étaient environ 70, partirent pour Yathrib, par petits groupes, jusqu'à ce que seuls Ali, Mohammed et Abu Bakr soient encore à la Mecque parmi tous ceux qui avaient décidé d'émigrer. Les adversaires de Mohammed avaient pressenti qu'il était temps pour eux de s'en débarrasser. Chaque clan désigna un jeune homme qui, tous réunis, devait assassiner Mohammed. Le clan hachémite, dans l'impossibilité de pouvoir venger ce crime par le sang, devrait fixer une somme d'argent due par les autres tribus pour se dédommager de la perte d'un homme de son clan une fois que Mohammed aurait été assassiné. La nuit fatidique, Ali se coucha dans le lit de Mohammed. Les jeunes hommes avaient décidé de tuer Mohammed au moment où il sortirait de chez lui le lendemain matin et furent très étonnés de voir Ali au lieu de Mohammed. Des hommes armés se mirent à la poursuite de Mohammed et d'Abou Bakr. La tradition rapporte que les deux hommes se réfugièrent dans une caverne. Durant la nuit, Dieu fit pousser un arbre qui masquait l'entrée de la caverne. Et une araignée vint y tisser sa toile pour recouvrir tout l'espace béant. Quand les poursuivants s'arrêtèrent devant la caverne, ils pensèrent que personne n'avait pu y pénétrer à cause de l'arbre et de la toile d'araignée. Le 24 septembre 622, Mohammed et Abou Bakr arrivèrent à Médine et furent rejoints par Ali 3 jours plus tard. Attention! La hijra, l'hégire en français, est le terme arabe utilisé pour parler de l'émigration de la Mecque à Médine en 622. Cette date marque le début du calendrier musulman. Reportez-vous à l'annexe A. Ne pas confondre la hijra avec un autre terme également important, le hajj, le pèlerinage à la Mecque, que tout musulman doit effectuer une fois dans sa vie et qui est discuté au chapitre 9. Avant son implantation à Médine, l'islam n'était guère qu'une petite secte religieuse vivant tant bien que mal au milieu d'une communauté plus vaste et majoritairement hostile. À Médine, les musulmans devinrent la majorité. Et avec ce changement de situation, les thèmes de la révélation coranique évoluèrent. Les révélations devinrent plus longues et ont moins de splendeur poétique que les sourates précédentes. Elles portaient souvent sur des aspects pratiques qui devaient être tirés au clair pour structurer la nouvelle communauté. Auparavant, la famille et le clan, et au-delà de cela la tribu, étaient tout pour un individu. Pour la nouvelle communauté des musulmans, l'attachement à la communauté, Umma, allait devenir plus important encore. Des réformes dans des domaines tels que le mariage, l'héritage et le commerce furent instituées. Au départ, les chefs des clans les plus importants avaient encore plus de pouvoir que Mohammed. La communauté entière avait accepté Mohammed comme arbitre, mais tous n'avaient pas embrassé l'islam comme leur religion. Les païens furent autorisés à rester dans la ville à condition de n'avoir jamais conspiré avec les Quraïchites de la Mecque. Les musulmans de Médine furent classés en 2 grandes catégories. Les immigrés, Muhajiroun, étaient ceux qui avaient accompagné Mohammed de la Mecque à Médine, Hégire, et également ceux qui avaient émigré un peu plus tard, mais tout de même avant la conquête de la Mecque en 630, qui est évoquée plus tard dans cette section. L'autre groupe était constitué des aides, Ansar, ces habitants de Médine qui avaient signé le pacte de garantie pour protéger Mohammed et qui sont devenus musulmans. En outre, on trouve une allusion dans le Coran à un troisième groupe, les hypocrites, Munafikoun, qui ont fait semblant de soutenir Mohammed, mais qui se sont secrètement opposés à lui. Il n'était guère aisé de concilier les intérêts de tous ces différents groupes. Seule une personne, possédant un charisme personnel et des qualités d'homme politique, pouvait réussir ce pari comme l'a fait Mohammed. Les relations entre les différents groupes furent codifiées dans un document appelé la Constitution de Médine. Pour plus de détails, reportez-vous au passage sur la Constitution de Médine. Ce pacte a établi des droits et des devoirs réciproques accordés aux divers groupes qui, en acceptant les conditions imposées, permirent la constitution d'une communauté au plan politique. Les musulmans considèrent la Constitution de Médine comme le document politique de base de l'islam. Les défenseurs de la démocratie en islam se réclament également de ce document qui a valeur de précédent. Cependant, parce que la Constitution de Médine n'a pas été divinement révélée, elle ne légifère pas sur la forme de gouvernement que doivent adopter les États musulmans à venir.
Pour aller plus loin, la Constitution de Médine, longue d'environ 2 pages, traite des problèmes à régler en priorité en rapport avec la communauté naissante. Elle ne présente pas un système d'organisation politique globale. Parmi ces dispositions figurent les points suivants. Les Juifs peuvent conserver leur propre religion. Chaque groupe est responsable de ses propres affaires internes. tous sont responsables de la défense de la communauté de Médine contre n'importe quelle menace venant de l'extérieur. Un musulman ne doit pas tuer un autre musulman, ni aider un non-musulman à tuer un musulman. Les conflits internes doivent être portés devant Mohammed pour arbitrage, étant donné qu'il est le prophète de Dieu. Les musulmans ont la responsabilité de veiller aux membres les plus pauvres de la communauté. Médine est un refuge pour les musulmans venant de l'extérieur, mais une femme qui s'enfuit et vient à Médine ne sera pas acceptée contre la volonté de sa famille. Une traduction en français de la Constitution de Médine est faite par Hamidullah, in corpus des traités et lettres diplomatiques de l'islam. Paris, édition GP Maisonneuve, 1935, pages 9 à 14.